Tissuissa, Francis Huster et David Sardou, bonjour.
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 Merci de nous recevoir pour théâtre.com. Alors, Steve Fussa, afin d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que vous avez récemment mis en scène le journal d'Anne Frank avec succès au théâtre Rive Gauche, et avec notamment Francis Huster, et vous récidivez dans une pièce de Bill C. Davis, L'affrontement, toujours au théâtre Rive Gauche, et ce à partir du 28 avril à 21h, avec donc deux très belles personnalités que sont Francis Huster et David Sardou. À noter que Jean et Dominique Piat ont signé l'adaptation de cette œuvre, qui fut jouée avec succès par Jean-Pierre il y a près de 17 ans, avec Stéphanie Lel. Et alors, donc, le pitch de cette pièce, en deux mots, il s'agit de l'affrontement plein d'humour entre Tim Farley, un vieux prêtre ivrogne attaché à ses principes, et Mark Dolson, un jeune séminariste assis sur son ardeur de néophyte. Comment est né ce projet ?
J'ai vu cette pièce il y a 17 ans. J'ai trouvé que c'était un match de boxe en 12 rounds sur la foi de deux êtres humains. Une transmission à l'envers. Une pièce sur la dialectique des choix auxquels on est tous confrontés. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on choisit le fond, la forme. Et j'ai trouvé cette pièce formidable parce qu'on peut être l'un et l'autre. Et on est l'un et l'autre. Et par rapport au temps qui passe, on peut passer de l'un à l'autre. Et c'est une pièce avant tout sur l'être humain, sur la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. C'est-à-dire avoir une quête de l'apaisement et de la dignité ou avoir une quête du pouvoir. Et forcément, c'est une thématique qui me tient à cœur. Et les années ont passé, et Jean-Pierre est venu voir Anne Frank un soir avec Dominique Piat, qui est sa fille. Et je lui ai dit que j'adorais cette pièce, et il m'a dit, écoutez, j'ai pas voulu donner mes droits pendant très longtemps parce que c'était mon bébé, j'ai cru moi-même que je pourrais la rejouer, mais si ça vous tente, vu le travail que je viens de voir, pourquoi pas. Je suis allé trouver Francis Huster, avec lequel je travaille depuis des années, avec lequel j'aime travailler. Il a lu la pièce, forcément il l'a aimé, et après j'ai tenté de faire un couple, et il s'est passé quelque chose d'assez drôle. C'est que j'ai commencé à réfléchir à des acteurs, et qu'il y a quelques mois j'ai fait un film comme acteur dans un univers de boxe dans lequel il y avait David Sardou, que je connaissais de vue, mais que je connaissais pas. Et il va voir Anne Frank, il trouve ça très bien, et il me demande le portable de Francis Huster pour lui envoyer un texto. Et deux, trois jours après que je lui donne ce numéro, il vient, il tape à ma chambre et il me fait j'ai envoyé un texte à Huster, c'est normal qu'il mette du temps à répondre. Et je lui dis oui, il est comme ça, il laisse son portable de côté, de temps en temps il fait une rafale de textos et répond à tout le monde. Et il me dit non, ok, parce que j'ai lu quelque part qu'il allait jouer dans l'affrontement. Et je lui dis, mais c'est moi le metteur en scène. Voilà. Et donc, il m'a dit, mais je rêve de jouer cette pièce depuis longtemps. Donc, si tu fais des auditions, j'aimerais bien la passer.
D'accord.
Et l'idée
a germé.
A germé. Et j'ai appris à connaître David. On a appris à s'apprivoiser, à parler ensemble. Et à un moment, j'ai trouvé que sa gentillesse, son humanité, cachaient la même dignité, la même intégrité et une certaine violence, qui était une vision complètement différente de celle de Lalanne, tout comme la mise en scène de Stéphanie Lel, que j'avais beaucoup aimé, ou par ailleurs, ou le décor qui avait été, ou les lumières qui avaient été faites de ce spectacle. Et là, en gardant et en étant totalement respectueux de l'adaptation de Jean et Dominique Piat, c'est une toute autre pièce, parce qu'on a choisi de faire un décor d'église totalement moderne. En tous les cas, Stéphanie Jarre s'est imprégnée de décorateurs japonais, comme il arrive dans les églises de Provence et qui viennent à Paris, c'est-à-dire un décor en béton ciré avec des vitraux. On a demandé à Jacques Rouvé, le rôliste, de faire les lumières. On met des musiques de chanteurs irlandais, tels que Damien Rice, où on prend des Alléluia de Jeff Buckley, et on a deux acteurs qui ne jouent rien, qui ressentent, qui sentent, qui vivent, qui se mettent à la place de ces personnages et qui les vivent pleinement.
Ouais.
Voilà. Et qui tentent de les aimer et de les comprendre. Et ça, c'est le théâtre que j'aime. Donc on s'acharne à ça, on avance de façon pas académique du tout, on avance de façon très humaine. dans un délai très court, parce qu'on devait commencer cette pièce en juin et on s'est dit tout d'un coup qu'on avait envie d'être dans un état d'urgence artistique, et elle a commencé dès que les deux acteurs étaient disponibles. Donc on commence en effet le 28 avril. Et j'adore ça parce que c'est un fond de religion. Tout ça n'est qu'un prétexte pour parler de l'humanité. Et je trouve que cette pièce est encore plus d'actualité aujourd'hui que jamais. Déjà avec l'élection d'un pape totalement différent, honnête, humain, sans concession, qui cherche avant tout l'humilité. Et en plus, dans une époque où les gens sont totalement fascinés par le pouvoir et l'argent, et que ces questions-là deviennent pratiquement ringardes, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Voilà. D'où je viens, où je vais, c'est quoi réussir sa vie, c'est quoi avoir la foi, c'est quoi croire en quelque chose, est-ce que c'est dans la soutane, est-ce que c'est dans la tête et dans le cœur, est-ce que c'est dans l'apparence. On est dans un monde quand même d'a priori, et tout d'un coup, ce jeune séminariste qui arrive et qui a eu une vie et une enfance terrifiante, il est là et il va se passer... qui va se trouver face à un homme qui est complètement différent de lui et qui est totalement apprêté. Et cet homme-là va avoir l'humilité de se dire « Peut-être qu'à un moment, je me suis perdu. Et peut-être que ce jeune mec qui est là et qui, au début, m'agresse, finalement, peut-être que je devrais l'écouter. » Et ce mec-là se dit « Finalement, je ne vais pas me battre contre ce prêtre qui est là depuis des années. Je vais peut-être essayer de lui dire que le truc le plus terrible au monde, c'est de renoncer à ses rêves. » Et donc c'est une pièce aussi sur le renoncement, et voilà, et j'adore ça. Je suis traqueur parce que j'ai pas envie de louper l'émotion de mes deux acteurs. Je suis traqueur parce que je trouve que c'est un texte qui passe du rire aux larmes et qu'il faut pas louper rien du tout, ni les silences, ni le rythme, ni les moments où ça s'accélère. Et je suis traqueur parce que j'ai envie que cette pièce ressemble à tout, c'est-à-dire à l'honnêteté de Jean-Pierre de l'avoir pris comme un bébé, à la pièce de Bill C. Davis, aux questions que peut se poser un Huster quand tout d'un coup, depuis trois pièces, il décide de complètement changer son jeu et d'aller dans une sorte de modernité qui ne ressemble plus du tout à son début de carrière, et un David qui s'est amusé d'aller de l'Alouette à un roi à une pièce américaine voilà, et qui tout d'un coup n'a pas envie de jouer le rebelle, mais qui a envie tout d'un coup de se poser des vraies questions. Et en étant sur un plateau presque tout nu, quoi. Voilà. Et tout ça, c'est très intéressant parce que j'ai des techniciens talentueux qui m'accompagnent. Et j'ai le sentiment de, en toute humilité, de tenter avec mes camarades, comme dans une troupe, de créer une nouvelle forme de théâtre. Un théâtre où tout d'un coup, un môme de 15 ans, comme une personne de 70 ans, pourrait venir en se disant, c'est une recherche de la vérité. Voilà, il y a de la musique. Il y a des lumières, il y a des atmosphères, il y a un univers, il y a des décors, il y a un texte, et il y a des acteurs qui ne jouent pas pareil chaque soir parce qu'ils jouent avec leur état, avec leur humeur, avec leur journée dans les pattes, avec leur sincérité, et voilà, et c'est une belle aventure.
Et néanmoins, cette pièce donc aborde des thématiques assez sensibles pour l'Église, comme le mariage des prêtres, la question de l'homosexualité, etc. Et pensez-vous que l'on puisse traiter des questions aussi délicates avec tout l'humour que l'on peut rencontrer dans cette pièce ?
Mais c'est ça qui est fort, je trouve. C'est ça qui a de force, c'est qu'on passe au-dessus de ça et que tout d'un coup on pose des questions voilà, que se posent les gens derrière leur télé, qui entendent et qui voient les faits divers. On n'a jamais vu autant de choses sur les prêtres, on n'a jamais vu autant de sujets à la télé sur les prêtres. On les voit avec des salles de sport, sortant dans des bars, allant dans des happy hours, ayant une vie normale, et je trouve que c'est ce qui est intéressant. Et c'est en ça que mon amour pour le cinéma me montre à quel point Coppola, quand il a fait ça dans Le Parrain 3 en parlant du Vatican et de la puissance immobilière du Vatican et de l'argent et de l'homosexualité dans ces milieux-là, il y a 20 ans déjà, on se disait mais quel génie. Et je trouve que c'est ça qu'il y a de fort, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de tabou, que ce soit une église, une mosquée ou une synagogue. Et c'est encore d'actualité avec la synagogue en ce moment, c'est-à-dire que tout d'un coup, voilà, je pense qu'au bout d'un moment, faut y aller cash, faut y aller carte sur table. Et c'est ça qu'elle a de bien, cette pièce.
Alors, Francis Huster, vous retrouvez Steve Suissa une nouvelle fois au théâtre après Bronx et le journal d'Anne Frank. Bon, comment ce rôle de vieux prêtre vous a-t-il été échu? Bon, bah, je pense que Steve Suissa a répondu à cela. Mais bon, est-ce que c'est une pièce qui immédiatement vous aurait plu ou convaincu si Steve ne vous aviez pas appelé?
La pièce, je l'avais vue il y a 17 ans. Elle m'a scotché. J'ai trouvé qu'elle était hollywoodienne dans le bon sens, c'est-à-dire à la fois très, très grand spectacle, même s'il n'y a que deux acteurs. Il y a neuf tableaux et à chaque tableau est une merveille de précision, de dialogue, de situation, de coup de théâtre. Mais je crois pas que je l'aurais interprété aujourd'hui si Steve Suissa n'était pas le metteur en scène. Parce que Jean Piat, Francis Lalanne et Stéphanie Lalonde ont été, mais vraiment, parfaits, couverts de récompenses. Jack Lemmon à l'écran extraordinaire, pareil. Et sans un vrai metteur en scène de cinéma, je ne l'aurais pas faite. Parce que c'est une pièce qui est très dangereuse dans le sens où elle se joue à deux, ça c'est sûr, mais faut pas jouer théâtre. Ça devient insupportable parce qu'à ce moment-là, tu vois des acteurs qui pérorent, qui cabotinent, qui font prétentieux, qui prennent des poses dans leur costume de prêtre, qui font des effets avec le public. C'est insupportable. Alors, je ne veux pas citer deux acteurs que tout le monde connaît qui seraient insupportables dans les deux rôles. Ils se reconnaîtront eux-mêmes. Mais on ne peut pas, dans Tim Farley, cabotiner et dans Mark Dolson jouer le rocker. Non, ce n'est pas possible. Ça, vraiment, sans blague. Donc, je me suis dit, d'abord, pourquoi Suissa prend cette pièce? Alors qu'il vient d'avoir un tabac dans Anne Frank, le même théâtre, en plus un même acteur parmi les deux acteurs qui restent. C'est peut-être la fille qui joue Anne Frank qui va faire Mark Dolson, je sais pas, qu'est-ce qu'il a, il veut roupiller. Non, mais je me suis dit, si Suissa met en scène la pièce, c'est qu'il y voit un film. Et donc je me suis dit, je fonce.
D'accord.
Et je pense que c'est, comme toujours avec lui, comme que c'est un metteur en scène funambule qui met les acteurs toujours en risque. Je me suis dit, c'est une chance extraordinaire, encore une fois, de faire en sorte que, comme dans Bronx, les deux acteurs, ne jouant pas justement théâtre, le public va se croire en 3D à l'intérieur d'un film.
Ouais.
Et ça, c'est formidable.
Ils vont être un peu des voyeurs.
Ça, c'est formidable, ouais. Parce que ça va probablement scotcher les gens et ça va donner à la pièce, surtout ici en France où on se prend pas pour hein, les Français, quand ils voient une pièce américaine, ils sont toujours très comme ça. Non, non, attends, je peux te citer une dizaine de pièces américaines qui sont des triomphes et où l'intelligentsia de mes deux françaises les a prises de haut. Je me rappelle de Bent. Je me rappelle de Deux sur la balançoire, je me rappelle de la pièce de Rovitz qui avait joué Dux et Birkin, ou Ah,
oh, Quelque part dans
Dux,
cette
c'est
vie.
merveilleux, formidable,
Quelque part dans cette vie.
Dabadi a fait un travail merveilleux, Van Eyck, merveilleux. Mais quand tu discutais avec les gens, ils avaient l'air de Oui, mais enfin, c'est une pièce américaine, quoi. Hein, je veux dire, voilà. Or, en fait, je pense que le fait de plonger comme avec un. Dans un style très très culotté, quoi, très dangereux. Ça va peut-être redonner à la pièce, et Bill Davis, l'auteur, sera là lui-même ici, ça va peut-être donner envie à tous les jeunes de travailler le rôle de Mark Dolson et à tous les vrais prêtres de venir la voir. Parce qu'il y avait deux solutions de traiter le problème de l'Église. La première façon, c'était de parler d'homosexualité, d'homophobie, de mettre vraiment les mains dedans, puisqu'on a vu que le précédent pape a eu beaucoup de problèmes sur des cas plus que douloureux, presque scandaleux, ayant dépassé la ligne rouge. Donc, c'est ce qu'a fait Bill Davis dans un des pans de la pièce. Et la deuxième façon de traiter une pièce sur l'église, sinon pourquoi déranger les gens dans une salle? Alors, il vaut mieux traiter d'une pièce entre un entraîneur de foot et son joueur. C'est de parler du sacerdoce des femmes. Une bonne fois pour toutes, pour quelle raison les femmes n'ont-elles pas droit au sacerdoce alors que il y a des imams femmes,
des rabbins.
Il y a des rabbins femmes. Pourquoi il n'y a pas des prêtres
pasteurs, femmes mais...
Voilà. Alors Bill Davis a eu vraiment, mais alors beaucoup de subtilité. Il a traité ça très très bien.
Enfin les femmes rabbins.
Elles sont pas nombreuses.
Elles sont pas légion.
Non, elles sont pas légion non plus, mais c'est le fait de l'accepter. C'est pas le fait d'en avoir 30 000 ou 40 000, c'est le fait de l'accepter. C'est ce pas, ce geste-là est important. Et l'Église romaine ne l'a pas encore fait.
Oh, non. Et Francis Huster, alors qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle-là? On a parlé de la pièce, ce qui vous a plu dans la pièce, ce qu'elle représente, mais vous dans ce rôle?
Pour moi, c'est d'entrer dans l'univers justement de Jack Lemmon, de James Stewart, d'Henry Fonda, de Monty Cliff, de cet univers hollywoodien, de Tony Curtis, de Jack Nicholson, de tous ces acteurs. Et je fais exprès de ne pas citer les deux acteurs qu'il adore, Al Pacino et Robert De Niro.
Non, ceux que tu as cités, je les ai
parce que c'est les acteurs de sa génération, moi c'est la génération d'avant.
C'est des anti-héros que j'adore.
Voilà,
c'est Billy Wilder, c'est tout ça.
Non, mais attends, il y a un acteur par exemple qui aurait été, mais j'en suis sûr, mais extraordinaire dans ce rôle. Tiens, deux acteurs, je pense à Humphrey Bogart et à Steve McQueen, parce que ce rôle, il est. Oui, rien que ça, il a l'air de dire.
Ça va, la comparaison, oui. Mais
je ne me compare pas à eux. Moi, je me compare à cet acteur que j'adore, Francis Huster. Mais en dehors de ça... Et pourtant, Dieu sait s'il me tape sur les nerfs. Mais c'est vrai que rentrer, tu sais, dans l'univers de ces rôles à l'américaine, où tu es à la fois tout d'un coup complètement déjanté, fou, ce prêtre ivrogne, qui se bourre la gueule, qui tout d'un coup est lumineux, pitoyable, au bout du rouleau. C'est un très, très beau rôle.
Ah oui, c'est pas souvent que vous avez des...
L'autre rôle, c'est un peu plus difficile. Je trouve Mark Dolson...
Alors, une deuxième lecture de la pièce donc, permet de souligner l'aspiration de l'homme à un monde meilleur, mais également sa prise de conscience d'une certaine relativité dans cette appréhension entre le pas si bien et le pas si mal. Où vous situez-vous par rapport à ces deux visions du monde?
Ça dépend des jours.
C'est une bonne réponse.
Oui, je suis assez d'accord avec ça.
Ça dépend des jours. Ouais. Il y a des matins où on se réveille et on se dit que on n'est pas si mal.
On fait ce qu'on peut.
En tous les cas, on fait du mieux qu'on peut. Après, il y a des coefficients qui ne nous appartiennent pas. C'est un peu comme dans notre métier à nous. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on cherche des sujets, on cherche des gens avec qui travailler, on a envie de faire un bout de chemin avec eux et de trouver la salle, de tomber au bon moment pour trouver le public, de travailler sur des thématiques qui résonnent ou pas. Tout ça, c'est... Les intouchables, les e-artistes qui sortent il y a 5 ans avec le même film, ça se trouve qu'ils font zéro entrée l'un et l'autre. Il y a des coefficients qu'on ne maîtrise pas. Voilà, donc le pas si bien, le pas si mal, je pense que dans nos métiers à nous, en tous les cas, si on ne construit pas, on se détruit. Donc voilà, après, ça dépend des jours.
David Sardou, vous incarnez donc dans cette pièce ce jeune séminariste. Comment Steve Suissa vous a demandé de travailler précisément ce rôle?
Il m'a demandé de le travailler déjà en sincérité, ce qui est le principal, et d'essayer de pas aller dans les travers de ce que pourrait être Mark Dolson, c'est-à-dire la facilité du voyou, du jeune, comme disait Francis, un peu rock, un peu en marge de la société, qui le rebelle, d'aller dans tout ce qu'on a vu déjà de ce personnage, que Francis Lalanne a très bien interprété, que Stéphanie Hillel aussi, et justement aller à l'inverse de ça. Et c'est là où je fais une entière confiance à Steve, c'est que Steve utilise qui vous êtes et n'essaye pas de vous modeler dans un format qui... Dans
par rapport
un,
à des clichés.
Par rapport à des clichés qui sont faciles, finalement, parce que quand on lit le texte, on dit « Ah bah oui, il s'énerve, là. Il est en train de l'engueuler, donc vas-y, engueule-le. » Non.
Mais...
Non, c'est pas ça, le théâtre. C'est justement le théâtre qu'on veut faire, c'est différent. C'est quelque chose, plutôt que de montrer les choses, les mettre sous-jacent.
Bah, c'est un peu la base du théâtre, non ?
Complètement, justement, mais on l'oublie souvent, malheureusement.
Ouais.
Et dans certains... Dans beaucoup de...
Le vrai théâtre, c'est ça.
Pardon ?
Le vrai théâtre, c'est ça.
Pour moi, oui.
Les choses.
Oui, mais c'est vrai que certaines facilités arrivent. Alors, moins dans un théâtre anglo-saxon. Et c'est là où je trouve que Francis a raison. Le théâtre anglo-saxon, moi qui ai vécu aux États-Unis et qui connais très bien ce théâtre, le trouve un petit peu différent du théâtre contemporain français, où le jeu est plus en retenue, j'ai l'impression, et donc plus discret,
Plus ressenti, surtout,
oui,
et moins dans la démonstration.
Exactement.
Oui. C'est pas une performance.
Oui.
C'est de l'incarnation.
Et Mark Dodson pourrait très bien être joué aussi de cette manière-là, c'est-à-dire très grandiloquent, donneur de leçons, sûr de lui, donc exacerbé, donc un peu gesticulant, un peu grande gueule. Et justement, on ne veut pas aller là-dedans.
Ben oui. Et pensez-vous que les problèmes soulevés par cette pièce sont toujours autant d'actualité 17 ans après
Moi, je trouve qu'elles le sont d'autant plus aujourd'hui, avec, comme disait Francis, les problèmes de société qu'on a aujourd'hui, le mariage homosexuel, la position de l'Église par rapport à ça, ce nouveau pape, le mensonge, parce qu'on traite beaucoup du mensonge. Ce jeune séminariste a dû passer par des travers pour arriver où il en est, et il a dû mentir beaucoup. Et on voit à quel point le mensonge aujourd'hui est présent partout dans les médias, partout dans la vie, et à quel point il faut arrêter ça, quoi. Faut arrêter le mensonge, faut avoir l'honnêteté de dire ce qu'on a fait, comme le fait Mark Dodson avec la vie qu'il a eue avant le séminaire. Alors, je veux pas raconter toute la pièce, mais c'est un homme qui revient de l'enfer, on va dire, et donc il l'avoue. Qui dit qu'il le dépasse et qui dit voilà, moi j'ai vécu ça, mais maintenant je veux devenir prêtre.
Il l'accepte.
Oui.
Il l'accepte, et tout d'un coup on a le sentiment de voir un prêtre qui fait une première messe où on se dit ce mec-là est impeccable, il n'a rien à se reprocher, et on voit un mec arriver et on se dit ce mec-là a tout à se reprocher. Et en fait, intérieurement, c'est le contraire.
Ouais.
Voilà. Et c'est la démonstration de ces deux hommes qui se démontrent ça et qui finissent par se regarder, c'est-à-dire qu'ils se parlent sans se regarder pendant les premiers tableaux, et au bout d'un moment, ils vont à confesse les deux l'un avec l'autre.
Ouais, un peu comme des trompe-l'œil, finalement.
Exactement,
ouais.
C'est-à-dire que c'était comme si c'était un miroir. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve que quand on accepte son état, on va déjà beaucoup mieux, quand on est honnête avec ça.
Mais ouais, alors, en fait, ma question de tout à l'heure revenait un peu dans les tensions qu'il y a dans la société, notamment avec le mariage pour tous et les excès qu'on a pu entendre à droite et à gauche. Je reprenais cette question par rapport à cette pièce. Est-ce qu'il n'y a pas une frange de la population qui est assis, on va dire, sur des valeurs un petit peu...
conservatrice,
voilà, merci. Pouvoir avoir un problème avec cette pièce.
Certainement.
Certainement, ouais, mais ouais. C'est bien. Moi, l'essentiel, c'est qu'on me dise pas, je trouve ça sympa, et j'aime bien les lumières, et cette musique là au troisième tableau, c'est quoi ? Voilà. Qu'on me dise j'adore ou qu'on me dise je déteste. Ouais. Mais de toutes les façons, elle laisse pas indifférent, elle donne à réfléchir sur la condition humaine. Voilà. Après, c'est comme toutes les œuvres, quoi. Toutes les œuvres d'art, quoi. L'essentiel, c'est qu'on trouve pas ça sympathique.
Qu'on en parle. Bah, écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci pour vos questions.
Merci.